Combien de personnes ici, vous aimez ça de recevoir des cadeaux? Soyez honnêtes. La plupart de nous, on aime ça recevoir des cadeaux, vous savez. Et puis probablement que dans le prochain mois, bien, vous allez possiblement recevoir un cadeau. Puis c'est toujours une bénédiction. Je dois vous avouer que moi aussi, je n'haïs pas ça. Est-ce que vous appréciez les dons lorsque les gens vous offrent quelque chose, puis parfois vous avez le sentiment qu'ils vous donnent quelque chose à contre-cœur ou qu'ils se sentent obligés de vous le donner? Est-ce que vous aimez ça? Non, on n'apprécie pas vraiment ça, vous savez, c'est pas... Et honnêtement, moi non plus, j'aime pas vraiment ça. Et la plupart des gens n'aiment pas recevoir un don lorsqu'ils ressentent que c'est forcé ou c'est à contre-cœur. Et est-ce qu'on pourrait dire la même chose à propos de Dieu? Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Philippiens pour les remercier de leur support, de leur don matériel à sa mission, il leur a dit, en fait, que Dieu prenait plaisir à leur offrande, que c'était comme un sacrifice agréable, un parfum de bonne odeur qui montrait vers le Seigneur. Et je suis certain que Paul, parce qu'il pouvait dire cela, il était persuadé que les dons qu'il recevait lui-même, puis qui étaient offerts, c'était fait de bon cœur, avec amour pour lui et pour le Seigneur. Amen. Et vous avez probablement déjà entendu cette expression-là qui dit « Nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. » Et il y a beaucoup de vérité dans ceci, vous savez. Beaucoup de vérité dans cette expression-là. Et on le trouve dans la parole de Dieu. En fait, l'apôtre Paul, lui, il le dit de cette façon. J'aimerais juste vous lire avec vous dans 1 Corinthiens 13. Hein, il dit, « Si je distribue tous mes dons aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Et il parle ici comment l'amour, c'est important, vous savez. Et c'est possible, on pourrait même dire, c'est possible de donner sans aimer. Et on peut voir aussi à travers la parole de Dieu que qu'est-ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, c'est réellement qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Amen. Ce que nous faisons, ce que nous donnons, si nous le faisons par amour, que ce soit un don pour quelqu'un, ou que ce soit une offrande pour le Seigneur, que ce soit quoi que ce soit, le motif de notre cœur, c'est très important au cœur de Dieu. Et là, en fait, la Bible nous dit que Dieu, il va nous récompenser, vous savez, pour notre fidélité envers lui, avec ce qu'il y avait dans notre cœur, de la façon que nous avons servi, nous avons donné dans notre cœur. L'apôtre Paul, il dit ceci dans un... Oups, on y va, tranquillement. OK. Il dit ceci, il dit... C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Amen. Dieu va regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et vous savez, nous sommes tous appelés à devenir des enfants de Dieu en Jésus-Christ et nous sommes aussi appelés à devenir des hommes et des femmes qui vont vivre leur vie selon le cœur de Dieu, qui vont partager, qui vont amener le cœur de Dieu dans notre monde. Et lorsque nous parlons de vivre selon le cœur de Dieu, vous savez, nous parlons vraiment de découvrir, on pourrait dire, les intentions qui viennent du cœur de Dieu à travers sa parole et ses commandements, et aussi à connaître qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et d'enligner notre cœur avec le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et je vous dis ceci pour vous dire cela, là, ça c'est, hein, je vous dis toujours ça, mais vous savez, c'est que lorsque nous parlons, en fait, de vivre selon le cœur de Dieu, c'est plus que de faire certaines choses ou de faire certaines œuvres, des rituels ou des dons, quoi que ce soit, mais c'est de le faire avec un motif pur dans notre cœur, avec l'amour dans notre cœur. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Les deux sont... Et c'est ça que j'aimerais adresser ce matin un petit peu. Puis je prie que ça puisse vraiment... que ce message peut porter du fruit dans chacune de nos vies. La première chose que j'aimerais de voir avec vous, c'est ceci, c'est que vivre selon le cœur de Dieu, c'est donner avec amour. Ça semble vraiment simple, mais je pense que vous allez voir où je m'en vais avec ceci. On pourrait dire, vous savez, que Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a créés, vous savez, Dieu qui nous aime, Dieu, en fait, la façon que Dieu nous aime, c'est en acceptant de nous donner ce dont nous avons besoin. Et il le donne avec amour pour nous. En fait, Dieu, c'est notre exemple parfait. Hein? Quand on découvre qui est Dieu, vous savez, pour être transformé, on a besoin de découvrir qui est Dieu. C'est comme ça qu'on... Lorsqu'on découvre son amour pour nous, ça produit de l'amour dans nous pour les autres. C'est comme ça que Dieu nous transforme. Et vous connaissez bien le passage, je suis certain, hein, plusieurs d'entre vous, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a donné son Fils unique à la croix, Jésus, pour nous, des pécheurs, afin qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, avec notre Créateur, qu'on peut être justifié devant lui, qu'on peut être adopté, sauvé, qu'on puisse vivre éternellement dans la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est-tu pas merveilleux? C'est merveilleux, la richesse de l'amour de Dieu. Mais nous devons croire et nous devons accepter le cadeau de Dieu par Jésus-Christ. C'est comme quand quelqu'un nous offre quelque chose, pour l'avoir, il faut le recevoir. Et Dieu, il nous offre le cadeau gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il faut le recevoir. Et pour le recevoir, on doit admettre, oui, que nous sommes des pécheurs, que nous sommes pécheurs. Nous avons tous manqué à quelque part. Nous devons admettre que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons admettre que nos bonnes œuvres ne sont pas suffisantes aussi, quand nous avons besoin. Et lorsque nous recevons, vous savez, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et Dieu l'offre à quiconque, à tous ceux qui veulent le recevoir. Et le Père a donné, en fait, ce qui était le plus précieux pour lui par amour pour nous, par amour pour vous, par amour pour moi. Ça, c'est dur à saisir, voilà. Mais c'est comme ça. La Bible nous dit, en fait, ceci dans Romains 5:8, ça dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Dieu nous a aimés avant que nous choisissions de l'aimer. Moi, j'ai reçu Christ à 23 ans dans ma vie. Le Seigneur m'aimait avant 23 ans. Et c'est comme ça. Et l'apôtre Jean, il dit de cette façon, « Mais voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. » Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Et c'est pour ça que nous lui rendons toute la gloire puis que nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Parce que Dieu nous a aimés. La preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est le don de son Fils, à la croix, Jésus. Et la chose que je voudrais qu'on puisse saisir un petit peu ce matin, c'est que Dieu, lorsqu'il a donné son Fils pour nous, il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait. Et, vous savez, si Dieu n'avait pas donné son Fils unique à la croix pour nous permettre d'être réconciliés avec lui, vous savez, en fait, on n'aurait aucun espoir d'avoir la vie éternelle aujourd'hui. Mais est-ce qu'on pourrait dire que Dieu nous a vraiment aimés si Dieu n'aurait pas donné son Fils pour nous? Si Dieu nous avait abandonnés, sans espoir, vous savez, sans qu'on aurait chance d'être réconciliés avec lui, puis il nous a dit, je t'aime, mais je ne fais rien pour toi. Est-ce que Dieu nous aurait vraiment aimés? Je m'en vais à quelque part, là, juste pour vous rassurer là, avec tout ça. Là, hein? Non, Dieu, il a prouvé par ses actions. Et vous savez, parfois dans notre vie, c'est vrai qu'on peut se demander, on, si Dieu est là, on peut avoir le sentiment parfois si Dieu nous a abandonnés. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là? Parfois, ça arrive, vous savez. La vie n'est pas toujours facile. Et parfois, on pourrait dire même la vie est parfois très difficile. Tu sais. Mais Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Vous savez. Et parfois, parce que ça nous arrive de différentes raisons de sentir comme ceci, vous savez, c'est parce que parfois, c'est parce que Dieu veut nous ramener dans le bon chemin pour notre bien. Parfois, c'est parce que Dieu veut que nos racines s'affermissent en lui davantage pour qu'on le recherche davantage. Mais Dieu a toujours une bonne raison. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Et même quand la vie est difficile, vous savez, des fois on dit, bien, où est-ce qu'il est Dieu? Mais au lieu de dire, où est-ce qu'il est Dieu, on pourrait dire, si Dieu ne serait pas là, ça serait bien pire. Dieu est avec nous, il est sur notre côté. Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Et en fait, dans Hébreu, hein, l'auteur, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit, c'est donc avec assurance qu'on peut dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Donc, nous connaissons l'amour de Dieu par la manifestation concrète de son amour, par Jésus. Et je sais que ça peut sembler un petit peu drôle ici, là, mais qu'est-ce que je veux que nous réalisons aussi, c'est que Dieu, lorsqu'il a donné Jésus, il ne l'a pas fait à contre-cœur. Je vous dis ceci, c'est parce que c'est la façon que Dieu nous appelle à aimer aussi. Et peut-être, vous savez, que vous avez déjà pensé ou vous avez entendu cette pensée-là dans notre monde où c'est qui dit, ben Dieu, là, il est en haut, puis il ne se soucie pas vraiment de nous, tu sais, puis même s'il a envoyé Jésus, là, pour nous donner la vie, tu sais, vraiment, là, tu sais, il l'a fait un peu par obligation, là. Il y a des gens qui ont, parfois, qui voient Dieu de cette façon-là, mais je veux qu'on peut saisir ce matin, c'est que Dieu, lorsqu'il a donné Jésus, il l'a fait par amour. Et comme Dieu a donné avec amour, nous aussi, nous sommes appelés à donner avec amour, à inclure de l'amour dans nos actions, si nous voulons vraiment vivre selon le cœur de Dieu. Que ce soit envers quelqu'un, que ce soit envers Dieu, tu sais, qu'on puisse le faire. Et là, vous me dites, bien, pasteur Luc, tu sais, bien oui, tu sais, on sait ça, ça fait longtemps qu'on sait ça, tu sais, c'est évident, tu sais. Mais la question que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin, c'est, est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que nous le pratiquons? Est-ce que ça nous arrive parfois, peut-être, de faire des choses pour faire des choses ou pour faire des choses sans amour? Ou de peut-être de le faire par obligation ou à contre-cœur? Est-ce que ça pourrait nous arriver? Je pense que c'est bien parfois de regarder à notre cœur puis de voir si notre cœur est là dans qu'est-ce que nous donnons. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? OK, tu sais. Et c'est bien de s'arrêter si nous voulons vraiment... si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, vous savez, il a dit, « Aimer ne veut pas dire de toujours donner ce que les gens nous demandent, mais c'est de toujours donner avec amour. » Et je pense que c'est important pour nous, c'est un bon rappel si nous voulons être des personnes qui vivent selon le cœur de Dieu. Et la deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci, c'est que vivre selon le cœur de Dieu, c'est aimer en donnant. Je ne suis pas en train de dire la même chose, là. Mais je sais que c'est de aimer en donnant. Vous avez probablement entendu aussi l'expression hein, qui dit ceci, c'est l'intention qui compte. Avez-vous déjà entendu ça? Hein, c'est l'intention qui compte, tu sais. Ça ne fait pas de différence. C'est vrai que l'intention est très importante, c'est ça qu'on vient de voir finalement, tu sais. C'est vrai que l'intention de notre cœur, puis c'est ça que Dieu regarde. Mais est-ce que c'est toute la vérité, c'est l'intention qui compte? Non. En anglais, des fois, on dit « talk is cheap ». Hein? C'est vrai, tu sais. Et puis, tout comme ce sont les actions de Dieu qui nous prouvent son amour, ce sont aussi nos actions qui prouvent notre amour envers le Seigneur, envers les gens autour de nous. Et on pourrait dire, vous savez, on pourrait dire que ben moi, j'aime le Seigneur. Et s'il n'y a aucune action concrète qui le démontre, il manque quelque chose dans notre déclaration d'amour, n'est-ce pas? La Bible nous dit « la foi sans les œuvres, elle est morte ». Et on pourrait dire aussi que l'amour sans les œuvres, elle est morte aussi. On peut dire qu'on aime notre prochain, mais si on ne fait jamais rien pour. Talk is cheap, hein? Donc, ce n'est pas seulement les intentions qui comptent, mais c'est les actions qui comptent aussi. C'est ça que la Bible nous enseigne. L'apôtre Jean, il le dit de cette façon. Il dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Amen. Et la Bible, en fait, elle nous enseigne, vous savez, de donner avec amour, avec notre cœur, mais la Bible nous enseigne aussi, pas seulement de donner avec notre cœur, mais de démontrer notre amour avec des actions. Nos paroles d'amour doivent être accompagnées d'actions pour qu'ils puissent avoir de la valeur et être agréables au cœur de Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas une question d'avoir un sans l'autre, seulement des bonnes intentions ou seulement des bonnes actions, mais c'est de joindre les deux ensemble. Et c'est ce que Dieu nous enseigne. Et je crois, vous savez, que parfois, c'est bon pour chacun de nous de regarder à notre cœur et d'examiner notre cœur. Est-ce que je donne? Est-ce que je sers? Est-ce que... Je vais l'enlever avant que je le fais tomber. Hein? Est-ce que mes actions, vous savez, est-ce qu'il y a de l'amour en arrière de mes actions? Vous savez, je sais que je vous le dis, puis je vais vous le dire encore, mais quand que je viens ici, tu sais, je ne viens pas à contre-cœur. Puis si dans mon cœur, il y a quelque chose là, qui n'est pas correct, là, bien avant de venir ici, là, je vais avoir une discussion avec le Seigneur. Je vais dire, Seigneur, si dans mon cœur, il y a quelque chose qui n'est pas correct, c'est pas bien, puis je te demande pardon, puis ramène mon cœur là où il devrait être. Puis honnêtement, je vous dis, c'est pas arrivé encore, là, tu sais, mais je viens. Et puis, mais on devrait, dans chacune de nos actions, et que ce soit avec notre frère ou avec notre sœur aussi, ou qu'on donne, quoi que ce soit, qu'on puisse vraiment examiner notre cœur, et aussi de se poser la question, est-ce que mes intentions sont accompagnées avec mes actions? Je ne suis pas sûr, là, je vois des visages ici. Là, hein? Est-ce que mes intentions sont accompagnées avec mes actions? Et parce que si nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu, les deux devraient faire partie. Puis je ne vous dis pas ça parce que vous ne le faites pas. Je vous dis ceci parce que c'est bien de s'examiner parfois dans notre cœur. Si nous voulons vraiment s'approcher de Dieu puis vivre selon le cœur de Dieu, connaître son amour et démontrer son amour. Et ce matin, j'aimerais, la troisième chose que je veux voir avec vous, c'est comment faire pour aimer Dieu et donner selon le cœur de Dieu. Et je sais que qu'est-ce que je vous partage ce matin, ça s'applique en fait dans toutes nos relations, personnelles les uns avec les autres. Ça s'applique aussi dans notre communauté. Dieu voudrait qu'on démontre l'amour de Dieu concrètement dans notre communauté, puis vous le faites de plusieurs façons. Ça s'implique dans nos familles aussi, et avec nos amis, avec nos frères et nos sœurs dans l'Église, dans nos relations personnelles. Mais j'aimerais concentrer un petit peu ce matin, particulièrement sur notre relation avec Dieu, notre relation personnelle avec Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse... Vous savez, lorsqu'on donne soit de notre temps, de notre talent, de notre don, de notre travail, qu'on fasse toujours avec de bonnes intentions, puis que nos intentions soient accompagnées. Mais je veux regarder un aspect particulier aussi ce matin. Je veux regarder l'aspect de nos richesses et de nos finances ce matin. Qu'est-ce qu'on fait avec avec nos finances, parce que nos finances peuvent être un moyen vraiment de démontrer au Seigneur notre amour. Je vous ai-tu perdu, là? Je ne vous ai pas perdu, j'espère, hein? OK. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce passage ici dans Matthieu 6. Jésus a dit ceci, c'est Jésus qui dit ceci. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et un peu plus loin, Jésus dit ceci, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Vous savez, ici, dans ce chapitre-là, dans Matthieu 6, Jésus il parle principalement des inquiétudes concernant les besoins physiques qu'on peut avoir, comme la nourriture, le vêtement, les besoins essentiels de la vie. C'est ça que Jésus parle. Et en fait, il est en train de dire, ne vous inquiétez pas, parce que votre Père céleste, il connaît vos besoins. Puis il leur dit, vous valez plus que des oiseaux. Hein? Il leur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, puis le Seigneur va s'occuper du reste. C'est vraiment ça qui est. Mais dans ce chapitre-là aussi, le Seigneur, il souligne un élément très important concernant notre cœur. Concernant notre cœur ici. Et il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Puis il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et Jésus parle vraiment de notre cœur. Et Jésus ici, dans ce chapitre-là, il n'essaie pas de manipuler ou de truquer les personnes pour qu'il écoute pour promouvoir son entreprise messianique. Ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Et j'espère ce matin que vous ne pensez pas que c'est ça que j'essaie de faire ce matin. Mais je veux exposer une vérité très importante pour des enfants de Dieu, pour chacun de nous, qui veulent vraiment vivre selon le cœur de Dieu, puis qui veulent faire la volonté de Dieu et marcher dans les voies de Dieu. Jésus ici, dans ce texte-là, il recherche le bien de ceux qui l'écoutent. Et en fait, il veut les mettre en garde contre les dangers du matérialisme. Il veut les mettre en garde contre l'amour de l'argent, des richesses, qui peuvent vraiment les éloigner de Dieu, puis leur causer beaucoup de difficultés, comme la Bible le dit. Et Jésus ici est en train de leur dire, vous savez, que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Il leur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus lui a dit, on ne peut pas servir deux maîtres, soit que tu vas aimer l'un ou tu vas mépriser l'autre, il n'y a pas deux chemins. Et je crois ceci, que c'est une vérité très importante pour nous aujourd'hui, qui vit dans une génération qui est très matérialiste. Et merci Seigneur pour la richesse que nous avons. On vit dans un pays riche, vraiment. On est béni. Merci Seigneur pour cette bénédiction-là. Et le Seigneur veut que nous recevions cette bénédiction-là avec reconnaissance, avec joie. Il n'y a rien de mal à recevoir les bénédictions. Amen. Absolument. Mais il y a un mensonge qui est flagrant dans notre monde, dans notre société, que le diable aussi essaie de promouvoir, vous savez. Et c'est de nous dire que c'est les richesses de ce monde, c'est le matériel de ce monde qui va nous rendre heureux, qui va vraiment nous rendre heureux, puis qui va essayer de nous dire, bien, le plus que tu en as, le plus que tu vas être heureux. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. En fait, on pourrait demander à l'homme le plus riche, qui a été le plus riche au monde, Salomon, hein? Lui-même a dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui rend heureux. Si vous pouvez lire le livre de l'Ecclésiaste, en fait, dans l'Ancien Testament, et ça nous dit très bien, Salomon, après toutes les richesses qu'il a eues, il dit, c'est poursuite devant. C'est pas ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de marcher avec Dieu, de craindre Dieu et de honorer Dieu. Et oui, il y a un mensonge un mensonge flagrant dans notre monde concernant les richesses que le diable, que le monde essaie de véhiculer en nous disant que c'est les richesses qui vont nous rendre heureux. Et une des raisons pourquoi ce mensonge est propagé et qu'on doit faire attention à ce mensonge, c'est que ce mensonge-là, c'est parce que l'ennemi du royaume de Dieu, il veut nous convaincre pour que nous n'investissions pas nos ressources dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous sommes dans une guerre spirituelle, c'est vrai. Et l'ennemi, vous savez, s'il peut, enlever les ressources de son ennemi, il va avoir la victoire. Vous comprenez? Je pense que le pasteur Michel vous a parlé de ça concernant l'eau, là. Dernièrement, là, tu sais, que c'est important qu'on ait de l'eau parce que si on n'a pas d'eau, on est vulnérable. Mais c'est la même chose avec l'Église aussi. Si l'ennemi peut venir enlever les ressources de l'Église, il va la rendre vulnérable et minimiser son impact pour le royaume de Dieu. Et nous devons être vigilants et discerner les ruses du malin et l'influence du monde autour de nous, vraiment. Et même nos propres faiblesses humaines, que ce soit la convoitise, que ce soit notre convoitise ou que ce soit nos inquiétudes qui va nous empêcher de honorer Dieu comme qu'on devrait le faire, ou la convoitise, nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là de l'ennemi. Mais on a besoin des ressources pour vivre. Et c'est quoi la solution de Dieu, finalement? C'est quoi, je dirais, la solution? Comment que nous pouvons réconcilier les deux? On a besoin d'avoir des ressources pour pouvoir pour nos besoins, et on veut honorer Dieu, et on ne veut pas que les ressources, l'argent, les richesses deviennent notre Dieu, que notre cœur reste à la bonne place. C'est un défi. On pourrait dire que c'est un défi, vous savez. Comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur et que nous voulons lui démontrer d'une façon concrète aussi, en même temps que nous avons besoin d'argent pour vivre? Voyez-vous le lien entre les intentions puis le cœur, là? On est... Comment aimer Dieu et ne pas laisser l'argent, la richesse devenir notre maître, une idole dans notre cœur? En fait, vous savez, ça a été un défi pour l'humanité, un défi pour nous. Depuis le début de l'histoire humaine, Dieu savait que ce serait un défi pour l'homme de gérer les deux, là, tu sais. Dieu, les richesses. Et c'est la raison pourquoi est-ce que Dieu a établi des principes bibliques de gestion dans sa parole pour protéger notre cœur, pour qu'on puisse prospérer, pour qu'on puisse s'enrichir sans que notre cœur, sans que ces richesses deviennent les idoles de notre cœur. Dieu a établi ce principe-là dans sa parole. Et un des principes que Dieu a établi, que nous retrouvons dans la Bible, c'est le principe de la dîme. On le retrouve dans la parole de Dieu. On le voit au tout début, en fait, dans Genèse, le chapitre 14, ça nous dit ceci. « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. » Abraham, qui est en fait le père de la nation juive, celui que Dieu a choisi pour se faire un peuple par lequel le Messie Jésus-Christ venait sauver l'humanité, vous savez. Abraham a donné la dîme de son revenu. On voit que Dieu avait déjà enseigné ce principe-là à Abraham, notre père, dans la foi. Il l'a donné à Melchisédek, qui est le prêtre, qui était prêtre du Très-Haut. Et le mot dîme ici, ça veut dire... Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire pareil. Le mot dîme, ça veut dire un dixième. Ça veut dire 10%. OK. Et nous voyons aussi, on le voit dans la Bible, et nous voyons aussi qu'Abraham a aussi enseigné le principe de la dîme à sa famille. Il l'a transmis à Jacob. Dans Genèse 28, on dit « Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob, lui aussi, a appris à donner la dîme. Il a donné la dîme. Et nous voyons aussi que lorsque Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, qu'il a choisi pour le mettre à part pour préparer la venue de son Fils, Jésus-Christ, il a renforcé le principe de la dîme lorsqu'il a donné ses lois à son peuple. Il l'a renforcé pour pourvoir à sa maison, au tabernacle et au temple. On le voit dans Lévitique, il y a d'autres passages, mais ça dit, dans Lévitique 27, ça dit, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut rechercher quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. » Il dit, « Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête, sur 10, de tout ce qui se passe, tout ce qui passe sous un bâton de berger sera consacré à l'Éternel. » On voit que Dieu a établi ce principe-là. Vous savez. La dîme était une partie qui appartenait à Dieu pour sa maison. On voit aussi à travers l'Ancien Testament que lorsque le cœur du peuple était touché puis qu'il revenait au Seigneur, une chose qui revenait aussi au Seigneur et à la maison de Dieu, il revenait et aussi la dîme de leur revenu revenait à la maison de Dieu. On le voit dans la Bible. Et on pourrait dire que Mammon ne prenait pas plus la place de Dieu dans leur cœur. Et on voit qu'il y a des prophètes aussi qui lançaient un appel à Dieu. C'est Dieu qui lançait un appel à son peuple de ramener à la maison la dîme et les offrandes. Et on voit ici dans Malachie 3, le verset 10, vous connaissez probablement, ça dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pensez-vous que Dieu est capable de pourvoir pour nos besoins? En fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. C'est nous qui avons besoin de donner ce que Dieu a besoin de recevoir. Mais Dieu a enseigné, la dîme, ça appartient à Dieu. On est libre de la donner et de la garder. Et il n'y a personne qui est obligé de donner la dîme. Je veux juste être clair sur ça, là, aussi ce matin. Il n'y a personne. On est libre. Mais la parole de Dieu nous dit, en fait, que ça appartient à Dieu pour sa maison. Et la Bible nous parle des offrandes aussi, des dîmes et des offrandes. Et des offrandes, en fait, c'est ce que nous donnons au-dessus de notre dîme. On le donne par amour, par reconnaissance envers Dieu, pour différents besoins. Nous donnons une offrande, mais la dîme, c'est pour pourvoir à la maison de Dieu. Êtes-vous encore avec moi? Je sais que c'est un sujet sensible parfois, hein? Mais ce que Dieu désire avant toute chose, vous savez, c'est la première place dans notre cœur. C'est ça que Dieu désire. C'est que nous donnions avec amour. La Bible nous dit que Dieu aime quelqu'un qui donne avec joie. Dieu prend plaisir à quelqu'un qui donne avec joie. Merci Seigneur. Je ne donne pas à contre-cœur, je donne, que ce soit dans n'importe quoi. Vous savez. Et Dieu aussi désire que, avec notre amour, qu'on donne aussi. On dit j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, qu'on le démontre d'une façon concrète aussi. Et une des façons concrètes que nous le faisons, ce n'est pas la seule façon. Mais une des façons concrètes, c'est lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes à la maison du Seigneur. C'est important aussi. Et comme enfant de Dieu, les deux éléments sont importants. Et je termine ce matin en disant, OK, pourquoi donner et aimer avec notre dîme et offrande? J'aimerais vous donner quatre raisons ce matin. La première est ceci, pour démontrer en action notre amour envers Dieu et sa maison. Démontrer avec des actions concrètes. Seigneur, oui, je t'aime, Seigneur. Amen. Parce que veut, veut pas, ça vient nous chercher. Hein? C'est un sacrifice, parfois, de donner. Et c'est important de le démontrer d'une manière concrète. Deuxièmement aussi, on pourrait dire, c'est pour protéger notre cœur contre l'amour des richesses. Pour que notre cœur, vous savez, que ne s'attache pas aux richesses et que notre confiance aussi n'est pas seulement dans nos ressources, mais notre confiance est vraiment en Dieu pour pourvoir à nos besoins. Amen. Pour que les richesses ne prennent pas la première place. Et je suis conscient ce matin, vous savez, que lorsque nous parlons, vous savez, de donner, d'apporter un dixième de notre revenu à la maison du Seigneur, vous savez, que ça va, je suis conscient que ça va venir chercher, c'est des bonnes chances que ça va venir chercher des choses, peut-être des désirs qu'on aimerait d'avoir, ou même des choses matérielles qu'on devra se priver pour qu'on puisse honorer Dieu avec notre... C'est possible, dans certaines circonstances, c'est possible, mais la question que me pose, est-ce que ces choses-là, vraiment, est-ce que ça pourrait que ça soit des idoles ou des faux dieux qui auraient besoin de mettre une place de côté pour donner la première place au Seigneur dans notre vie? Si ça nous fait mal d'un fois, c'est peut-être parce que ça devrait changer de place. Est-ce que vous m'aimez encore? Je vais vous dire, en tant que pasteur de votre Église, je crois que c'est ma responsabilité d'enseigner toute la parole de Dieu. Et c'est un signe avec nous. Si nous voulons que l'Église chrétienne de Pentecôte ici continue son œuvre à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et à faire tout ce que nous faisons, nous avons besoin, le peuple de Dieu a besoin d'honorer Dieu avec les dîmes et ses offrandes. Amen. Et on va continuer d'aller de l'avant. Et oui, pour protéger notre cœur contre l'amour des richesses. Parce que l'apôtre Paul, il nous dit, en fait, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, ça peut nous éloigner très loin de Dieu. Puis vous savez, c'est fort, l'argent, du matériel. Il y a une attraction quand même qui est assez forte avec les richesses de ce monde pour nous amener à compromettre notre amour avec le Seigneur. Et c'est pourquoi donner la dîme de notre revenu, c'est un moyen que Dieu nous offre pour nous aider à combattre, cette tendance-là. La troisième raison, pour démontrer notre foi en Dieu et de voir sa fidélité. Et je suis très conscient, vous savez, que parfois, d'honorer Dieu avec la dîme de notre revenu, c'est un geste de foi. Des fois, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on va arriver? Comment est-ce qu'on va arriver à la fin du mois? Comment est-ce qu'on va arriver? Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il a rappelé son peuple, vous savez, d'apporter la dîme et les offrandes à la maison, il lui a dit, mettez-moi à l'épreuve. Parfois, c'est un geste de foi. Est-ce qu'on met notre foi dans le Seigneur ou est-ce qu'on met notre foi dans nos ressources, dans nos forces, dans nos moyens? Le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous savez, lorsqu'on a accepté le Seigneur, moi puis mon épouse Valérie, on a eu la conviction, le sentiment qu'on devrait supporter financièrement notre église, notre petite église pentecôtiste à Chibougamau, dans le nord du Québec. Puis il faisait froid l'hiver dans cette église-là. Et à cette époque-là, j'avais un bon salaire. J'avais quand même un bon salaire. Et puis, on s'est dit, moi puis Valérie, au lieu de donner notre 2 $ comme qu'on faisait dans notre ancienne église, lorsque l'offrande était prise, on s'est dit, on va donner beaucoup plus. Et on va donner 10 fois plus. On va donner 20 $ Et je me souviens, au début de notre vie chrétienne, on pensait, on donne beaucoup, là. Tu sais, on donne beaucoup. Et tranquillement, en lisant la Bible, et en apprenant que Dieu enseignait, ce que Dieu enseignait à ce sujet-là concernant les finances, j'ai compris que Dieu nous parlait du dixième de notre revenu. Parce qu'on disait, Seigneur, comment tu veux que je donne? Et c'est une des choses que Dieu nous a enseignées au début de notre vie chrétienne. Et là, j'ai compris, le dixième? Aïe, aïe! C'est comme, tu sais, c'est vraiment? Oui, OK. Et au tout début de notre vie chrétienne, par la grâce de Dieu, dans la première année, en fait, dans les premiers mois, on a compris que la volonté de Dieu dans la gestion de nos finances, beau temps, mauvais temps, ça commençait avec le don du dixième de notre revenu à la maison de Dieu. C'était réglé. comme ça. Et je dois vous dire qu'il y a des temps où c'était vraiment un geste de foi. Je déteste, c'était vraiment un geste de foi. Puis je peux vous dire que par la foi, on disait, Seigneur, on ne sait pas comment, mais tu vas pouvoir. Et on a vu plusieurs fois. On a vu, je vous ai déjà raconté des histoires, vous ne les raconterez pas encore, là, mais on a vu des chèques qui sont arrivés dans notre boîte à mal qu'on ne s'attendait pas. Il y a quelqu'un qui a envoyé un congélateur dans notre maison plein de nourriture. On a mangé toutes sortes de choses. Dieu a pourvu, surtout lorsque nous étions au collège biblique, c'était vraiment un geste de foi. Mais ça nous a permis de voir la fidélité de Dieu. Et Dieu, vous savez, a toujours pourvu. Puis oui, on a bu du lait en poudre. Puis je sais, David Martin, il venait chez nous. Il disait, vous buvez du lait en poudre? J'ai dit, David, si tu aurais quatre enfants là, assis autour de la table, là, puis c'est comme des petits veaux qui boivent du lait, là, puis avec les revenus, là, je pense que toi aussi, tu boirais du lait en poudre. Et oui, j'ai porté des chemises de mon pasteur, le pasteur Fernand, puis on divisait les frites au McDonald's, puis tout ça, vous savez. Et oui, parfois, il a fallu attendre, mettre des choses de côté, vraiment, qu'on a mis de côté, vous savez. Puis mon épouse a cuisiné des soupes. Je pense que le Seigneur a multiplié la nourriture, comme les pains, et a pourvu. On a vu la fidélité de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses, puis il va toujours être fidèle à ses promesses. Et ça fait au-dessus de 40 ans, puis je ne regrette pas du tout d'avoir honoré le Seigneur avec la dîme de mon revenu. Et nos offrandes aussi, vous savez. Et par la grâce de Dieu, c'est certainement que je veux continuer jusqu'à ce que le Seigneur m'amène avec lui. Et ça nous démontre, c'est le point que je veux dire, ça nous démontre, on démontre notre foi et aussi on voit la fidélité. Puis dernièrement, une des raisons aussi, c'est pour qu'il puisse avoir de la nourriture dans la maison de Dieu. Une des raisons pourquoi Dieu l'a établi, c'est qu'il y a de la nourriture dans la maison de Dieu, la provision dans la maison de Dieu. Et oui, l'Évangile, c'est gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et comme quelqu'un a dit, l'Évangile est gratuit, mais parfois, pour la porter, ça coûte quelque chose. Dans le sens qu'on a besoin, là, on a besoin de chauffage, on a besoin de différents besoins. Et Dieu veut qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait des ressources. Et il y a un ennemi spirituel qui essaie de combattre. Il va essayer de toutes sortes de façons. Pour nous éloigner et d'arrêter de honorer Dieu avec la dîme de notre revenu. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des convictions fortes contre les mensonges de l'ennemi. Êtes-vous avec moi ce matin? Et je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait parmi nous aussi. Mais il y a une autre raison, vous savez, pourquoi? Et la cinquième raison, c'est celle-ci. C'est pour qu'on continue de voir des personnes confesser leur foi par le baptême, comme que nous allons voir ce matin. Amen. Qu'on puisse continuer de partager l'Évangile, la parole de Dieu, de témoigner en action, en amour, de différentes façons, vraiment, pour que le nom du Seigneur continue d'être glorifié. Puis ce matin, c'est ça que nous voulons encore témoigner une autre fois, l'amour de Dieu. On veut se réjouir avec toi, Chantal. Puis on veut te féliciter aussi, Chantal, de ta confession dans le Seigneur Jésus-Christ, de ton désir de suivre le Seigneur et de le confesser publiquement par les autres du baptême. Ce n'est pas évident, mais tu le fais parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu crois dans lui, puis que tu veux le déclarer devant lui. Puis ce matin, on veut te féliciter cette confession-là que tu veux faire devant le Seigneur. Puis j'aimerais ce matin, alors qu'on va prier pour toi aussi, Chantal,